Alors, probablement que certaines personnes diraient, oui, si vraiment le chrétien devait garder la loi, le Nouveau Testament aurait été plus clair à ce sujet et aurait dit des choses explicites là-dessus. Par exemple, du style que les chrétiens qui ne sont pas issus des nations gardent la loi. D'accord ? Bon, en vérité, de manière générale, dans la vie, pour plein de choses, dans plein de domaines, on pourrait dire, oh, si vraiment Dieu aurait voulu ceci ou cela, il aurait été plus clair à ce sujet, il me l'aurait dit, il me l'aurait fait savoir, etc. Mais regarde, jamais j'ai eu de révélation, si la personne dirait, n'est-ce pas ? Jamais j'ai eu ceci, cela. Donc, la personne ne croirait pas en Dieu. Un peu du style, je ne crois que ce que je vois. Donc, cet argument de dire, oh, ça aurait été plus clair, ça aurait été plus évident, etc. C'est un argument qu'on peut retrouver finalement dans plein de domaines par rapport à concernant Dieu, n'est-ce pas? Et en général, le problème qu'ont les gens avec, qu'ont les gens qui disent que ça aurait été plus clair, plus évident, plus simple, à ma connaissance, c'est qu'ils n'ont pas cherché suffisamment, de manière suffisamment honnête, et alors qu'ils n'ont pas demandé à Dieu, honnêtement, sincèrement. Et donc, parce que c'est un commandement dans la Torah, n'est-ce pas, de chercher Dieu. Donc, et puis, il y a une promesse qui est liée à ça dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quelque chose qui est sain, n'est-ce pas? Donc, voilà, déjà, en guise, si je puis dire, de préambule concernant cette parole de dire que ça aurait été plus évident. Maintenant, pour répondre à cette question, alors, en vérité, effectivement, il y a certains passages qui ne sont pas extrêmement clairs concernant eh bien, le fait de garder la Torah pour un non-croyant. Ah, pardon, un croyant issu des nations. Il y a des passages qui parlent de ça, mais qui ne sont pas forcément effectivement hyper explicite par rapport à ça. Par exemple, on va avoir un passage qui dit « Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme lui a marché. » Indirectement, ça peut laisser sous-entendre que le croyant en lui, celui qui dit demeurer en lui, devrait marcher comme lui a marché. Or, lui, il a marché dans la Torah. Donc, indirectement, on pourrait comprendre, on pourrait même se sentir appelé à marcher dans la Torah. Ça, c'est un passage, par exemple. Un autre passage dans Actes 15, 16 à 17, où Jacques va citer une prophétie d'Amos. Et de cette prophétie, on pourrait comprendre que le chrétien, afin d'accomplir la prophétie dans Amos, donnée par Jacques, à savoir que le tabernacle de David sera reconstruit, réédifié, eh bien, on pourrait comprendre qu'il aurait à garder la loi en tant que fils d'Israël, afin qu'Israël soit restauré. Donc là aussi, par exemple. D'autant plus que cette compréhension va parfaitement dans le contexte, si je puis dire. Mais là, par exemple, il n'est pas dit, vu qu'on a la prophétie d'Amos, alors oui, vous, les chrétiens, gardez la loi. Non, c'est pas dit comme ça. Il est juste dit, on a ça dans Amos, que... Il n'a même pas dit que le chrétien aille lire Moïse dans les synagogues. Il lui plutôt dit, ils écouteront grosso modo Moïse, c'est-à-dire les commandements, dans les synagogues. Donc, là encore, ce n'est pas direct, hyper clair, hyper explicite, hyper simple. Mais de ce passage-là, on pourrait comprendre, encore une fois, que le croyant issu des nations aurait à garder la Torah. Donc il y a des, on peut trouver des passages comme ça dans le Nouveau Testament sous-entendant vraisemblablement que le chrétien issu des nations aurait à garder la Torah. Mais on a en plus de ces passages-là une réalité beaucoup plus forte, si je puis dire. C'est tout simplement la notion du péché. C'est quoi ? 1 Jean 3,4 nous dit que le péché c'est la transgression de la loi. C'est d'une certaine manière comme la définition du péché. Et donc, on comprend que si un homme ne veut pas pécher, ce qui est dans la volonté de Dieu qu'on ne pêche pas, comme il a dit à la fin d'Adultère, il ne pêche plus, n'est-ce pas ? Et dans d'autres passages même, on comprend que Dieu ne veut pas qu'on pêche, n'est-ce pas? Et de toute façon, ça fait extrêmement sens, n'est-ce pas? Donc, quand on ne veut pas pêcher, par exemple juste après notre baptême, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas pêcher? Ça veut dire ne pas transgresser la loi. D'accord? Donc, ça veut dire ne pas aller en compte de la loi. Donc, ça veut dire garder la loi. Donc, ne pas pécher, ça veut dire garder la loi de Moïse. Comme il est dit dans Jean chapitre 1, la loi a été donnée par Moïse, pas la loi de je sais pas qui. Non, la loi de Moïse. Donc, si un chrétien ne veut pas pécher, comme Jésus n'a pas, le Christ n'a pas péché, eh bien, il doit garder la loi. Et ça, c'est un principe qui est très fort, en fait. Qui est très fort. Qui est logique. Qui fait sens. Qui est simple. Et à partir du moment où ce principe est logique et évident, si je puis dire, est simple, alors, il n'y a pas besoin de dire aux chrétiens issus des nations de garder la loi. Parce que c'est évident. Ce serait comme leur dire « ne péchez pas ». Est-ce que dans la Bible, il est écrit « ne péchez pas » ? Comme ça, juste vraiment sans contexte. Non, il n'y a pas... Pourquoi ? Parce que c'est évident. C'est évident. Donc, on ne va pas nous dire « ne péchez pas ». De la même manière, on ne va pas nous dire « regardez toute la loi ». Parce que c'est deux choses équivalentes qui sont évidentes. Voilà. Et bon, à l'époque des premiers chrétiens... il y avait des juifs, etc. Donc, le fait qu'un chrétien ait une nation et a gardé la loi, ça pouvait être beaucoup plus simple à voir, en fait, vu que les premières communautés étaient juives et que du coup tout le monde gardait la Torah, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour se remettre dans une telle réalité, il faut étudier les Écritures et bien comprendre que tous ces passages qui sont de contradictions apparentes par rapport au fait de garder la Torah ne sont pas, à ma connaissance, bien interprétés ou bien traduits. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais tout simplement que, effectivement, d'un premier coup d'œil, on pourrait avoir l'impression que le Nouveau Testament n'est pas clair, n'est pas direct par rapport à la question de garder la Torah pour un croyant issu des nations, mais en vérité, quiconque s'intéresse au fait de ne pas pécher, et donc par conséquent à ce qu'est le péché, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, bien logiquement, on devra en arriver à vouloir garder la loi. Seulement, certains passages du Nouveau Testament mal traduits pourraient l'en empêcher ou essayer de l'en empêcher. Mais en vérité, quand les passages sont bien traduits et bien compris, il n'y a pas de raison de s'arrêter à ne pas garder la loi. Et du coup, il pourrait se dire, ok, je garde la loi pour ne pas pécher. Et il pourrait se dire, bon, bah, c'est pas écrit dans le Nouveau Testament de manière hyper évidente, claire, simple, directe, parce que justement c'est évident, il pourrait dire ça. Mais du coup, il pourrait chercher peut-être des points de détail dans le texte qui iraient confirmer sa pratique sans pour autant la raison. Et ces passages qui iraient confirmer sa pratique et sa compréhension, ce sont ceux tels dont j'ai parlé précédemment dans l'audio, à savoir par exemple le passage en Actes 15, 16 à 17. Le passage de 1 Jean, il me semble que c'est 1 Jean, où il est dit « Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme lui a marché ». Et à mon souvenir, je crois qu'il y a d'autres encore passages du Nouveau Testament qui vont dans l'idée de « le chrétien devrait garder la loi ». Donc au final, on a une raison logique et censée et évidente qui nous pousse à garder la Torah, à savoir ne pas pécher. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir des passages dans le Testament qui vont confirmer cette pratique pour nous. Donc au final, ben, on n'a pas de raison de douter, je dirais. Et les choses sont très simples, donc ça fait très plaisir. Parce que c'est horrible de se dire, ok, je ne vais pas fauter sans savoir ce qu'est la faute. C'est un peu absurde. C'est pas apaisant. On n'est pas dans la liberté, là, on est dans l'oppression. On est dans le doute. On est dans le je sais pas ce qui va arriver dans quelques instants. On est dans le j'espère que je vais pas faire mal, etc. C'est pas agréable. Alors que si on est là, on dit, ok, bien, la faute c'est ceci, cela, ce, ça, cela. Alors j'ai une très grande liberté. C'est quoi ma grande liberté? C'est de comprendre que tout le reste n'est pas une faute. Malgré le fait que des hommes pourraient me dire, oh non, ça c'est pas bien. Oh non, 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 non. Par exemple, la polygamie c'est pas bien. Pourtant, c'est le premier fantasme de tout ce qui existe chez les hommes. Si vous demandez à n'importe quel homme, selon un sondage dont j'ai entendu les résultats, si vous demandez quel est le fantasme le plus gros que tu aimerais faire dans ta vie, il va dire c'est coucher avec plusieurs femmes. Donc les hommes vont avoir des envies qui sont légitimes aux yeux de la Torah, en eux-mêmes, ok ? Mais ils ont été forcés et restreints à ne pas les exprimer à cause des hommes. Probablement à cause d'une tradition, d'une histoire, d'un pouvoir. Et du coup, ils vont vous dire non, c'est pas bien. Mais c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que la Torah n'est pas contre ça. Et même légifère ça. Donc connaître la vérité, ça donne une grande joie. C'est libérateur, comme il est dit. En vérité, je vous dis, celui qui reste en ma parole, connaîtra la vérité et la vérité l'affranchira. Et si le Fils l'affranchit, alors il sera réellement libre. Donc c'est véritable, c'est véritable. Mais maintenant, vous allez me dire, oh mais du coup elle est trop bien la vie, etc. J'ai une grande liberté, j'ai une grande joie qui est associée avec, forcément. Quand les gens vous ont parlé, quand vous-même, vous avez eu tellement de foi, ce fantasme, par exemple, de coucher avec plusieurs femmes, et que à chaque fois que vous l'aviez vu, vous avez dû en vous-même le réprimander, le restreindre, le cacher, ne pas se l'avouer à soi-même. Quand vous avez toujours eu ça, et qu'en plus, les hommes vous disent « non, c'est mal », etc., et qu'un jour, la Torah arrive et vous dit « frère, il n'y a pas de souci, fais-toi plaisir par rapport à ça, vis ça, c'est en toi ». C'est pas pour rien que c'est en toi, ça fait partie de toi. Vis-le si tu en as envie, si tu ressens l'envie en toi. C'est comme manger de la viande. Il y a des gens, ils ont envie de manger de la viande en eux, mais il y a des gens, ils vont dire non, 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 mange pas de viande, etc. Et en fait, les hommes vont arriver, ils vont dire non, ne fais pas ça, c'est pas bien, etc., c'est mauvais. Par exemple, le fait d'être contre l'acte homosexuel. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, c'est pas bien, c'est mauvais, etc. » d'être contre ça. Mais en vérité, ces gens, ils sont qui ? Ils sont juste des gens comme ça qui sont là quelques minutes sur Terre, grosso modo. N'est-ce pas ? Mais la Torah, elle est là éternellement, n'est-ce pas ? Et elle est de Dieu. Donc, ces gens, c'est comme un chihuahua par rapport à un plus gros et puissant des... Enfin non, c'est incomparable. C'est comme un chihuahua par rapport au plus grand et plus puissant des lions, si on pourrait dire. C'est ridicule. C'est envie de rigoler. Donc la Torah, elle va nous faire comprendre ce que c'est la vérité par rapport à ce qui est mal et ce qui est bien. Les hommes, ils vont avoir leur avis. Ils vont dire manger la viande, c'est mal. Il y en a d'autres qui vont dire être polygame, c'est mal, etc. D'autres qui vont dire c'est bien. Enfin, il y a d'autres sortes d'avis dans le monde. La Torah, elle va trancher, elle va dire la vérité. Puis voilà, il pourrait y avoir des croyants, des chrétiens avant qui disaient « Oh, je vais demander Saint-Esprit ou quoi. » Mais c'est un truc qui, je crois, pourrait dépendre, qui dépend même vraisemblablement des chrétiens. Et puis d'ailleurs, ça ne doit pas aller... le Saint-Esprit ne va pas à l'encontre de ce qui... De la Torah, à ma connaissance, n'est-ce pas ? Parce que la Torah, ça vient où ? Ça vient d'où ? Ça vient d'en haut. Ça vient du ciel. Ça a été donné du ciel sur le mont Sinaï. C'est descendu du ciel sur la terre, sur le mont Sinaï. Donc ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Ce n'est pas une loi d'homme, c'est une loi divine. C'est une loi qui vient d'en haut, c'est une loi qui vient de Dieu. Donc on sait que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de l'esprit, car Dieu est esprit, la chair n'aime pas ça, elle combat ça. Ses désirs sont contre ça. Et donc, c'est pas étonnant qu'au final, les gens ne croient pas et ne comprennent pas que la Torah soit la loi vraiment divine, quoi. Donc, voilà. Donc, en résumé, je dirais simplement aux gens qui disent « Ouais, c'est pas clair, ça aurait été plus simple, plus évident, plus direct ou quoi. » Puis, si, je leur dirais tout simplement « Revois ce qu'est la définition du péché. Revois ce que c'est. » Et en réalité, ça, quand on réfléchit, c'est une question qui est censée être basique, vraiment ultra basique, parce que c'est ce qui est censé régir ta vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, l'objectif de la vie chrétienne, c'est de faire ce qui plaît à Dieu. C'est de marcher avec Dieu. C'est-à-dire, grosso modo, de ne pas offenser Dieu, de ne pas commettre un péché, de ce qui est à ses yeux un péché. Et donc, on voit finalement que toute la vie chrétienne tourne autour, à la base, de la question qu'est-ce que le péché ? Et ça fait sens parce que le fait de garder la loi pour un croyant de base issu des nations, ça change sa vie. Sa vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec une personne qui ne garderait pas la loi. Donc, garder la loi, c'est grosso modo toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne, c'est une grosse partie, ou la principale partie de la vie chrétienne du croyant. Voilà, donc ça fait sens que, pareillement, la question de qu'est-ce que le péché a un grand impact sur la vie du croyant. Voilà, c'est deux choses qui sont liées et qui ont un grand impact sur la vie du croyant. Parce que oui, du coup, il y a des chrétiens qui vont dire « Oh, moi, je pense qu'il y a des croyants, là, plus précisément, qui vont dire « Oh, moi, je crois que le Saint-Esprit, j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a dit que la polygamie, c'est un péché, d'accord ?» Puis un autre, comme moi, qui va dire « Ah non, moi, je crois que c'est pas un péché. » Donc, ça veut dire qu'il y en a deux, d'accord ? Deux croyants qui vont dire l'un l'autre de choses différentes concernant la polygamie. Comment on fait ? Alors, en vérité, il y en a un des deux, à savoir moi, qui a basé son avis sur l'écriture. Puis, il y en a un autre qui l'a basé sur ce qu'il pense être le Saint-Esprit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait office de foi ? La personne qui pense avoir parlé au Saint-Esprit, avoir reçu quelque chose du Saint-Esprit, et donc qui est quelque chose qui est contraire à l'écriture, ou alors quelqu'un qui ne prétend pas avoir parlé avec le Saint-Esprit ou entendu le Saint-Esprit, mais qui se base juste sur l'écriture. Bah, évidemment et logiquement, n'est-ce pas, c'est la personne qui se base sur l'écriture qu'il faut suivre, n'est-ce pas ?